Marceau.
Marceau, le matin.
On est quoi? On est le 30 janvier. Il est 7h56. Je viens d'apprendre qu'on est rendu à Montréal.
Il y en a un. Ouais. Il y en a un qui avait raison sur les ondes d'une autre station il y a quelques mois.
Mario Dumont sera là avec toute son équipe de lundi.
on l'apprend de même.
C'est ça.
Non, c'est juste pour vous spécifier. C'est une erreur d'aiguillage. Là. Tout le monde travaille avec des ordinateurs. Puis des fois, ben, en tassant avec sa souris, on fait des petites erreurs.
Ou du moins, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Là.
Ah oui?
Ben, c'est ce qu'on essaie de se faire croire nous-mêmes pour essayer de penser qu'on a encore une job.
Pour se rassurer.
Ouais. Ben là, j'ai reçu dans mon calendrier prochain meeting le 25 février. Fait qu'il nous reste peut-être un mois, gars.
Ouais, je me demandais pourquoi toute la gang du 99.5 à Montréal voulait me parler dans Marceau soir.
Ouais.
Du Trisac.
Ah, il tentait le terrain.
C'est vrai.
Isabelle Maréchal.
Je me demandais pourquoi j'ai croisé la gang du 99.5 qui visitait nos studios
ben
hier.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, ne stressez pas, c'est juste une erreur d'aiguillage. Voilà. Donc, moins 19 degrés sur Québec, il neige actuellement. On me dit que c'est très glissant à certains endroits. Ça va peut-être occasionner des petites problématiques sur la route. Avec le refroidissement éolien, c'est une température ressentie de moins 31. Sur tes radars, tu vois quoi actuellement?
Sur la route, c'est assez beau. Il y a Capitale-Ouest où il y a quelques petits ralentissements par bout entre Beau-Royal et Laurentienne. Petit ralentissement Capitale-Est un peu passé Robert-Bourassa, mais c'est tout!
Merci beaucoup. Dans l'actualité, on parle de...
Le nouveau fonds pour le transport en commun du Canada n'aura finalement que 25 milliards de dollars à offrir aux provinces au lieu des 30 milliards initialement promis par Justin Trudeau. Puis ça, c'est le fonds qui devrait servir au financement d'Ottawa dans le projet de tramway de Québec. Fait que ce serait pas une super bonne nouvelle. Radio-Canada constate que l'engagement de décaisser 30 milliards sur 10 ans, ça a été remplacé par une promesse d'allouer une moyenne de 3 milliards par année. Et ces sommes-là seront plafonnées à 25 milliards. C'est dans les prochaines heures que Pierre Poilievre fera face à un vote de confiance au Congrès du Parti conservateur du Canada qui se tient à Calgary. Avant le vote, il aura la chance d'offrir un discours devant les plusieurs centaines de militants présents. On parle d'à peu près 2500. À noter que c'est pas un mouvement là, qui a été initié pour le pousser dehors. C'est juste, c'est comme ça, après une défaite du Parti conservateur aux élections, c'est automatique que ça vient avec un vote de confiance pour le chef. Et Donald Trump s'attaque à nouveau au Canada, cette fois via Truth Social. Il menace d'imposer 50% de tarifs au pays s'il ne qualifie pas les jets américains Gulfstream. Il décertifie aussi aux États-Unis les bombardiers Global Express et tous les aéronefs fabriqués au Canada. Il dit que ça, ce serait effectif dès maintenant, mais vous comprendrez que c'est pas très applicable dès maintenant d'empêcher tout le monde aux États-Unis de voler avec un avion bombardier.
La chroniqueuse politique Jacinthe Varel est en studio avec nous comme à chaque vendredi. Salut Jacinthe.
Bonjour.
Tu passes une belle semaine?
Ben oui.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est gâtés pour ce qui est de l'actualité. À savoir si c'est tout le temps des bonnes nouvelles, ça c'est une autre histoire.
Ouais.
Mais là, Donald Trump fait encore jaser parce que probablement que ses chums ont appris que leurs avions privés allaient peut-être être cloués au sol là, pour ce qui est des prochains jours et prochaines semaines. On parlait tantôt, on s'en va vers le Super Bowl, Jeff. Imagine-toi, tu sais, t'es le chum à Donald Trump. Puis là, Trump dit, moi, les avions bombardiers, là, je vais clouer ça au sol. Interdiction de vol au-dessus des États-Unis. Encore une fois, Jacinthe-Ève, c'est simplement des petites menaces. Là.
Ben, c'est simplement d'amener un nouveau sujet sur le tapis. Donc, sur la table, c'est une façon pour Donald Trump de dire, on a un problème, on a un enjeu. Il y a des avions américains qui rencontrent des délais inacceptables selon peut-être ce qui a été rapporté à la Maison-Blanche, mais lui, il veut que ça bouge. Donc, ce qu'il dit, c'est que, voyons donc, mais nos avions construits aux États-Unis, ça avance pas vite, la certification. Si vous continuez de nous niaiser comme ça, on va retirer la certification. Bien sûr que c'est une menace qu'on peut pas encore savoir si elle peut vraiment... Est-ce que c'est entre les mains du président des États-Unis de pouvoir retirer des certifications? Il y a des organisations qui vont s'occuper de ça.
La présidence ne peut pas clouer des avions au sol. C'est ça, Jeff?
En plein ça, la présidence ne peut pas. C'est le département de l'aviation américain qui a cette responsabilité-là.
Donc,
ce pouvoir-là devrait se jouer.
J'aime l'idée que tu me dises que c'est probablement pour faire dévier sur d'autres sujets. Ce que je me pose comme question, c'est aux États-Unis, là, ils suivent-tu les nouvelles des chicanes entre Trump et Mark Carney? puis les frais supplémentaires qu'on veut mettre en place. Les Américains, ils doivent se foutre un peu de nous autres, les Canadiens.
Ben, ils ont leur politique intérieure.
Ouais.
Et leur politique intérieure est riche en nouvelles. Donc, est-ce qu'ils se soucient tant que ça des rapports entre leur président et notre premier ministre? Pas tant que ça. Ça fait partie des nouvelles tertiaires de leur registre d'actualité, c'est sûr. Mais c'est une façon pour Donald Trump, tout simplement, de dire on a des enjeux de réglementation, on a des enjeux d'approbation. C'est long. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui veut des résultats et qui est pressé. Il sait qu'une présidence, 4 ans, c'est très vite passé. Donc, c'est sa façon de mettre de la pression puis de dire il faut que ça avance plus vite. C'est à nous de prendre la balle au bon et de profiter de cette opportunité. Moi, je le vois comme une opportunité de dire « Ah, voilà un élément qui est important pour le président américain. » On va s'asseoir et on va dire « OK, c'est important pour vous, ça semble important pour vous que les avions américains soient certifiés par Transport Canada rapidement. Quels sont les délais actuels que vous trouvez inacceptables? Quels sont les délais qu'on s'attend de notre côté? Et négocions, parlons, discutons. Parce que je trouve qu'on utilise mal les opportunités. Ça, là, c'est une petite crisette là, qui survient. C'est un nouvel élément. On vient de se faire surprendre avec ça. Mais c'est une opportunité de dire, voilà quelque chose qui tient à cœur au président américain. Donc, plutôt que d'être en mode défensif et dire, voilà, là, c'est nos avions bombardiers qui risquent de payer le prix, c'est l'opportunité de s'asseoir et dire, bon, on a un enjeu sur l'aviation. On va s'entendre là-dessus. Et parfois...
Et peut-être sur les autres choses.
Et parfois sur les autres choses, bien sûr, parce que là, on voit qu'on est capable de discuter.
Je me fais l'avocat du diable. Moi, je pense que Trump fait juste toujours... en remettre avec d'autres sujets. Je pense qu'on devrait juste focusser sur les négociations de l'entente Canada-États-Unis-Mexique, l'entente commerciale, puis pas bouger sur ces petites réactions-là.
Oui, parce que, tu sais, on se le disait ce matin, puis j'entendais des experts en aviation se prononcer sur le sujet hier, puis ce qu'eux mentionnaient, c'est que le processus suit son cours avec ces avions américains-là, puis il n'y a pas de passe-droit. Il faut s'assurer que tout soit correct pour dire, bon, ben c'est beau, tu peux y aller avec ce type-là ou pas. Mais normalement, ça devrait être juste des formalités, mais il faut respecter le délai. Là.
Absolument. Il y a un calendrier, il y a des vérifications qui doivent être faites, des inspections. Mais juste d'ouvrir le dialogue. Ouais. Non, mais tu sais, juste d'ouvrir le dialogue.
J'aime quand même la twist. C'est une nouvelle qui peut être perçue comme négatif, mais de l'autre côté, ça te donne une opportunité d'appeler le président en disant « Hey, on vient de regarder ce que vous venez de dire. On trouve que ça a bien du sens. On peut négocier. Puis, by the way, il faudrait négocier sur d'autres
Absolument.
Choses. On peut-tu se rencontrer face à face? » OK, c'est bon. Pierre Poilievre, ça va-tu être une démonstration de force qu'on va voir dans les prochaines heures? Est-ce que Pierre Poilievre va s'en sortir avec 90% de taux d'approbation, 80% de taux d'approbation, parce qu'il est avec 3 000 à 4 000 délégués, de ce que je comprends. Là, on est dans le secteur de Calgary. On s'est arrangé pour faire ça dans un endroit pour être sûr et certain que Pierre Poilievre puisse bien paraître aussi. Ça va-tu être une démonstration de force ou ça va être une catastrophe?
Je pense que ça va être une démonstration de force.
Ouais.
Oui, on entend des mouvements de fond. Là, il y a une vague de fond, une vague d'opposition à Pierre Poilievre qui remet en question son leadership. On met sur la scène les mauvais sondages, les sondages qui sont favorables à Mark Carney. Le fait que, en ce moment, si on avait des élections demain matin, probablement qu'on n'aurait pas Pierre Poilievre comme premier ministre. Donc, ça donne des outils à ceux qui s'opposent à son leadership. Mais en même temps, les faibles taux d'intention de vote pour Pierre Poilievre ne s'expliquent pas exclusivement par une remise en question de son leadership. Là, ça n'a rien à voir avec son leadership. Ça a plus à voir, selon moi, avec la force de Mark Carney actuellement. Son discours, sa rhétorique, la rhétorique qui est utilisée par le Parti libéral du Canada est forte. On désigne un ennemi commun. Tout le monde s'entend. En fait, on nourrit cette peur-là d'un adversaire, cette peur-là d'un ennemi commun qui sont les États-Unis. Et par la suite, on pose le premier ministre du Canada en super-héros face à cet ennemi. Les gens embarquent là-dedans, les médias embarquent dans cette rhétorique-là. Et c'est sûr que ça fait en sorte qu'on voit Mark Carney comme un sauveur, on le voit dans notre soupe. Et cette adhésion populaire-là envers notre premier ministre fait en sorte que n'importe quel chef en ce moment au Parti conservateur du Canada, à moins qu'il y ait une politique complètement différente qui se démarque réellement, mais en ce moment, les deux partis semblent quand même s'entendre sur l'approche à adopter face aux États-Unis. Ouais. Alors, c'est sûr que ça ne peut pas donner du vent dans les voiles de, du Parti conservateur, mais
surtout
ça n'a rien à voir avec
surtout
son...
Surtout Carney pige un peu dans le cahier de notes
ben oui.
de Pierre Poilievre. Là. Il y a une évidence là. Est-ce qu'on va lui reprocher d'avoir perdu cette grande avance-là? Parce que, comme tu l'as dit, Mark Carney a trouvé son vilain.
Ouais.
C'est Batman contre, je sais pas moi, le pingouin orange. Il a son vilain. Pierre Poilievre va devoir faire quoi? Parce que beaucoup, tu sais, dans les derniers mois, on a souvent comparé Pierre Poilievre à Donald Trump, ce que je trouve une aberration. Là. Il n'y a aucune comparaison entre les deux. Pierre Poilievre, il a son style propre à lui. C'est un excellent communicateur. Mais on voit quoi dans l'avenir avec Pierre Poilievre? Comment il peut revenir de l'arrière?
Le temps va l'aider. Parce qu'en ce moment, on a l'effet de nouveauté encore. On a l'effet de ce super-héros de Mark Carney qui fait en sorte que même si on tente d'attaquer Mark Carney sur quelque angle que ce soit,
ouais.
c'est difficile. Mais en même temps, quand les négociations... Si les négociations n'aboutissent pas avec Donald Trump, si on n'obtient pas de résultats de gains importants face à Washington, c'est là où ça sera facile pour le Parti conservateur de dire « Bon, mais voilà, ça fait un an et demi, deux ans que Mark Carney nous avait dit qu'il lèverait les coudes, nous avait dit qu'il tiendrait tête au président américain. On n'obtient rien de ça. Qu'avons-nous obtenu deux ans plus tard? » Donc, je pense que c'est le temps qui va permettre de donner des outils au Parti conservateur de démontrer que ben, les promesses de Mark Carney n'ont pas tenu la route. Il y a aussi tout l'aspect économique. Cette crise-là a révélé nos failles sur le plan économique. On est peu productif. Notre croissance économique, elle est pratiquement nulle ou très, très faible. Si on ne réussit pas à redresser la barre de notre économie canadienne, ça aussi, ça va donner des munitions au Parti conservateur pour dire, voyez-vous, notre croissance économique n'est pas au rendez-vous. Notre productivité, notre écart de productivité avec les États-Unis, elle est très grande déjà, notre écart de productivité. On parle d'un 40 % je pense, d'écart de productivité. Alors ça a des impacts majeurs. Si Mark Carney ne réussit pas à transformer notre structure économique, eh bien là, ça va donner des outils. En attendant, bien, force est de constater qu'il faut aussi laisser cette crise-là progresser un peu pour que Pierre Poilievre trouve des outils.
Vas-y, Jeff.
Ben, penses-tu qu'il peut avoir une défection à la suite du Congrès? T'es un député qui serait vraiment défavorable à Pierre Poilievre ou à la façon que ça s'est produit, puis qu'il y a une nouvelle crise d'entremont qui traverse la Chambre puis qui dit « Tiens, les libéraux, voilà votre majorité ».
C'est possible, des traîtres qui vont traverser la Chambre et qui donneraient une majorité, surtout qu'il nous manque un député,
ouais,
je pense,
exactement.
Un député pour donner une majorité.
Parce
à,
que c'est
à
clair
Carney.
Que Carney va jouer dans les coulisses aussi, comme il l'a fait avec d'Entremont, puis j'ai oublié le nom de
absolument.
L'autre député qui l'a fait après avoir pris des photos avec Pierre Poilievre au party de Noël.
Oui, 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 absolument.
Assez spécial. Là.
Absolument, oui. Michael Ma.
Michael Ma, voilà, merci.
Dans la banlieue de Toronto, qui a traversé.
C'est ça.
Absolument, c'est sûr qu'il y a eu des pourparlers, il y a eu des tentatives du côté du Parti libéral pour convaincre un député. Peut-être qu'il y a certains députés qui attendaient ce congrès-là pour se faire une opinion plus juste ou pour sortir, pour faire volte-face. C'est fort possible. Mais il faut savoir que ce mouvement-là de contestation, là, moi, je ne pense pas qu'on va l'observer à travers le vote de confiance. Je pense que le vote de confiance, Pierre Poilievre va bien s'en sortir. Il y a eu un travail quand même fait par le parti pour amener des délégués favorables à Pierre Poilievre à Calgary. Il faut savoir que le vote de confiance se déroule uniquement avec les délégués qui sont sur place à Calgary.
Exact.
Donc, c'est pas un vote à distance. On a amené sur place, on s'est assuré d'avoir sur place une bonne majorité de gens qui sont en sa faveur. Et n'oubliez pas que Pierre Poilievre faisait une course à la chefferie il n'y a pas si longtemps contre notamment Jean Charest.
Puis il a clenché solide, là.
Oui, absolument. Mais il y avait quand même un mouvement pro-Jean Charest très fort au Québec.
Ouais.
Rappelez-vous,
oui,
on a plein... En ce moment, là, on a des députés élus du Parti conservateur qui étaient dans le clan Charest et qui avaient tourné dos à Pierre Poilievre. On se demande encore...
Si je me souviens bien, il y a juste Pierre Paulus qui avait appuyé Pierre Poilievre au Québec.
Oui, absolument. Et c'était un appui très faible au Québec. Et cet appui faible au Québec, ben, il est résiduel et il nourrit encore un mouvement contestataire.
Ouais, il est encore là.
Il y a encore des gens qui pensent que ça irait mieux sous Jean Charest. Il y a encore des gens qui espèrent le retour de Jean Charest et qui travaillent en ce sens-là. Et je dirais, il y en a même dans les médias là, qui, on l'a vu, il y a eu beaucoup de critiques de la part de soi-disant conservateurs dans les médias du leadership de Pierre Poilievre. C'est des gens qui déjà étaient dans le clan durant la course à la chefferie, dans le clan Jean Charest.
Ouais, qu'on travaille à une relève pour Pierre Poilievre? Parce qu'on a l'impression que c'est pas le gars qui va être là dans 12 ans. Là. On a beaucoup parlé de Caroline Mulroney, oui, que je trouve intéressant. Il y avait des gens qui m'avaient parlé de Ben, mais je parlais avec Victor Henriquez hier, puis il me parlait de Nicolas Mulroney, qui semble être quelqu'un qui pourrait être un successeur à Pierre Poilievre. C'est-tu des noms que t'entends?
C'est des noms que j'entends. N'oubliez pas que Jean Charest peut encore se montrer intéressé aussi. Donc, est-ce qu'on est en train déjà de préparer...
Je veux pas faire d'orgisme, là, mais on peut-tu passer à d'autres choses? Tu sais, au Québec, il y a comme un renouvellement, là, une nouvelle génération de politiciens. Là. Mais là, arriver avec les vieilles affaires, à un moment donné, il faut passer à d'autres choses.
Bien, c'est sûr qu'on peut avoir notre opinion là-dessus, mais l'expérience peut être payante aussi en politique. Mais c'est vrai que des nouveaux visages, on aime bien ça. Mais... moi, ce que j'essaie de mettre en lumière en ce moment, là, c'est de vous faire penser que même si on tassait Pierre Poilievre et on mettait une nouvelle figure, là, un Ben Mulroney ou une Caroline Mulroney, ou peu importe, il y aura toujours ce spectre de Jean Charest qui continue. C'est pas pour rien qu'on le voit, il est très actif dans les médias, il est très actif sur la scène fédérale à commenter l'actualité entre les négociations avec Washington. Donc, ce mouvement-là qui souhaite l'arrivée au pouvoir de Jean Charest va pas s'éteindre.
Puis Charest croira encore?
Je ne sais pas, je peux pas parler.
Il y a 67, ouais. M. Charest, là.
Oui, c'est ça. Je me disais, retourner dans une course à la chefferie, leur perdre une deuxième fois, c'est un méchant risque.
Je peux pas parler pour lui, non. Mais ce que je veux dire, c'est que les mouvements contestataires
sont encore présents.
En une minute, Jacinthe Varel, on parle beaucoup de souveraineté au Québec en raison de PSPP qui décroche pas de la souveraineté. Moi, ça fait des années que je dis, s'il y a une province qui va devenir souveraine, c'est bien l'Alberta. Et là, ça grenouille à l'intérieur même de l'Alberta. Il y a des gens qui veulent poser la question aux Albertains, voulez-vous vous séparer, oui ou nom du Canada. Est-ce que ça se fera? Je ne sais pas, mais ça grenouille énormément. Est-ce que tu y crois que l'Alberta pourrait se séparer du Canada?
Les chiffres d'adhésion à l'indépendance de l'Alberta tournent autour de 30 % environ, là. Mais c'est une bonne base qui fait en sorte que si les campagnes de communication et les campagnes politiques sont efficaces, on pourrait voir ce chiffre-là monter.
Fait que c'est bon pour le Québec aussi.
C'est bon pour le Québec parce que...
je pose la question. On est à peu près dans les mêmes eaux.
C'est bon pour le Québec parce que au moins, ça amène le débat. Est-ce que le fédéralisme canadien est efficace? Est-ce que le fédéralisme canadien comporte plus d'embûches pour les Canadiens ou comporte plus d'avantages? Il faut se poser cette question-là. C'est tout à fait sain. On parle souvent qu'on a vu des menaces à la démocratie dans d'autres pays plus loin, d'autres pays plus proches de nous, et on s'en fait beaucoup avec ces enjeux à la démocratie. C'est un enjeu, c'est une menace à la démocratie que de s'empêcher de se poser des questions sur notre système politique. Un système politique... historique, c'est tout à fait sain de dire en 2026, est-ce qu'on tire avantage de ce... Est-ce que c'est bénéfique pour les Canadiens ou on pourrait revoir ce modèle-là? On sait que, par exemple, la Fédération des États-Unis, les États sont beaucoup plus autonomes que les provinces ici au Canada et on voit les avantages et les inconvénients, bien sûr, mais d'avoir des États, là, c'est sûr que ça reste un pays, ça reste une fédération, mais on a décentralisé quand même beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Ici, on est dans une fédération quand même très centralisatrice. On peut parler de centralisation, décentralisation, d'indépendance aussi. Et moi, je nous souhaite ça, d'avoir ces débats-là, puis d'avoir des débats qui élèvent au-delà des enjeux que j'entendais quand j'avais 4 ans puis 5 ans, là, chez moi, dans mon salon, quand j'entendais parler d'indépendance, de parler des fonds de pension, puis de parler de faire peur au monde, puis de parler de... Tu sais, ça serait bien qu'on regarde les modèles politiques. Ça peut ressembler à quoi, un Québec indépendant, un Alberta indépendant?
Très bon commentaire. Jacinthe Varel, un bon vendredi, un super de beau week-end, puis on se reparle vendredi prochain. Merci d'avoir été là. 8h14, Max sur la route.
Il y a pas mal juste sur Capital Ouest où il y a un ralentissement entre Henri Bourassa et Laurentienne. Peut-être, on va vous dire, Capital Est, auteur Robert Bourassa et Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, mais à part ça, c'est quand même pas mal beau.
Après la pause, on parle avec le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, qui sera là. On va parler, bien sûr, des priorités pour la prochaine session qui vient de débuter. On va parler de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. On va parler des excuses demandées à Paul Saint-Pierre Plamondon. J'imagine que Max aura ses questions à poser à M. Tanguay. Et on parlera du fameux dossier de Marois Risky qui en fait jaser plus d'un. On revient. Boulevard 102.1.